RMC, Viva Padel.
Viva Padel.
Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est reparti pour un nouveau numéro de Viva Padel, ton podcast Padel avec Moon Safari. C'est le podcast qui t'accompagne. Voilà, si t'es un grand passionné de Padel, si t'as envie de savoir tout ce qui se passe sur le circuit, les résultats, les petites anecdotes, parler business aussi autour du Padel, on est là tous les 15 jours. Si tu l'as pas encore fait, tu t'abonnes au podcast, c'est super important sur toutes les plateformes de téléchargement. On est dispo partout. Et puis tu nous retrouves bientôt sur un compte Instagram spécialement dédié à Viva Padel et à tous les sports de raquettes sur RMC. Je vous dirai quand ça sort, mais restez connectés. Et puis vous avez également des extraits vidéo de Viva Padel sur les réseaux RMC Sport et sur nos réseaux perso à toute la team. Donc n'hésitez pas surtout à nous envoyer des petits DM en commentaire, des thématiques que vous voulez aborder. On est là pour ça et on fait ce podcast pour vous. Donc c'est très important d'échanger avec vous sur tout ce que vous souhaitez faire dans ce podcast. La team est réunie. Notre coach Padel, Jean-Thomas Perroux. Salut mon JT.
Salut Nico, salut à tous.
Plus fringant qu'il y a 15 jours, hein. On sent que ça va mieux, tu remontes la pente un peu. Je te sentais un peu dans le dur ces derniers temps, là c'est mieux. C'est mieux. Jean-Luc Baldelli, le promoteur du Betclic Bordeaux Premier Padel. Salut mon Jean-Luc.
Salut à tous.
Les gars, gros programme aujourd'hui, on va parler du P1 de Buenos Aires parce que c'est vraiment la capitale mondiale du padel, il y a eu un engouement de fou. Il faut qu'on revienne sur tout ça. On va parler également de deux jeunes Français qui ont remporté un tournoi FIP en France, à Marne-la-Coquette. On sera avec Jérémy et Robert, un de nos invités. On va revenir également sur l'organisation d'un tournoi Premier Padel. Est-ce que ça demande en termes de charge, d'énergie, de contraintes? Parce que c'est quelque chose d'assez dingue d'organiser un tournoi Premier Padel. Et puis tiens, on va terminer avec du gaming. Vous jouez à la console un peu? Vous avez joué à la console ou pas?
Il y a longtemps, oui.
Il y a très longtemps.
Et ben on va pouvoir jouer au padel, les gars, sur le petit téléphone portable. On a testé le jeu avec Jean-Luc, c'est pas ouf. Allez, on vous en dit pas plus.
Alors on a fait des par 3, hein.
On a fait des par 3 pour la première fois de notre carrière.
Viva Padel.
Retour les gars sur le, enfin la tournée sud-américaine, mais surtout sur ce tournoi P1 de Buenos Aires. Un tournoi incroyable. JT avec une ambiance de fou, public argentin bouillant, on le sait, tous les ans on en parle, mais malgré tout, là, j'ai eu la sensation quand j'ai regardé les images qu'on avait encore franchi une étape et franchi un step dans la passion dévorante des Argentins pour le padel et également même dans tout ce qui était audience, dans tout ce qui était affluence en début de semaine. Enfin, c'était plein quoi, et ouais. C'était vraiment un engouement de zinzin.
17 000 personnes, je crois, si je dis pas de bêtises, une affluence de
record. Hein.
Record. Les Argentins sont très passionnés par le jeu. Le public argentin, lorsque la sélection argentine gagne le trophée, on sent une véritable ferveur et donc ils sont vraiment derrière leurs joueurs.
Alors c'est 17 000 par jour. Hein.
17 000
en
par
moyenne.
Jour, oui.
Ouais, ils ont fait 17 000
sûr,
par jour.
Oui, ouais. Sur l'affluence de la finale. Donc non, c'est. C'est incroyable, je crois que l'Argentine a envie d'avoir un second tournoi, se positionne pour le Master aussi, moi j'ai vu des trucs passer là-dessus, donc une finale incroyable en plus avec deux Argentins sur le terrain et une victoire de Shingo Togalan sans appel 6-2, 6-1, là, les podcasts s'enchaînent et à chaque fois je
vais commencer à avoir raison
je vous sors le refrain, non, que l'Otapia, il s'économise.
On va commencer à avoir raison Jean-Luc.
Là, ça commence à être très difficile. Comparé aussi aux années précédentes, il y a beaucoup de tournois où les conditions se ralentissent un petit peu. Et forcément, Coelho Tapia, dans des conditions là où il y a plus d'échanges, plus de jeux, sont moins en forme. Il y a forcément un Tapia, là, depuis le début de saison, qui n'est pas à son niveau, qui n'est pas à son prime. Donc voilà, je me laisse encore une petite chance là pendant 15 jours.
Combien
après
de temps
on est à la mi-saison, on verra. Moi, une petite chance là. Laissez-moi une petite chance pour le Major de Rome.
Écoute, il y a 15 jours, tu nous as dit que Coelho Tapia sont très au-dessus.
Ouais.
Non, mais on va voir l'enchaînement Buenos Aires-Rome.
Ouais, voilà. Bon, et Buenos Aires, on a vu.
Tu sais, on t'en veut pas. Hein.
6-2, 6-1, c'est quand même très violent, c'est quand même une belle fessée.
Il a pas senti celle-là.
Non, je l'ai pas vu.
Si, il y a des gens dans les médias français qui ont dit que Luis Enrique n'était Julia pas un bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est Julia De Funès qui a dû dire ça, mais non, mais. non, là, ils ont pas de solution. Galan Chingoto, il y a un Galan qui est stratosphérique. Un Chingoto, t'as l'impression que tu peux pas le lober, qui fait 2 mètres. Il laisse pas passer une balle, il reprend de filet à chaque fois. Ils sont vraiment dans le dur, Tapia Coelho. Après, ils sont dans le dur, mais à souligner, je sens quand même aussi. Ils sont toujours en tant qu'équipe, tu vois. Tu les vois, même dans la défaite, tu sens qu'il y a quand même une passion de jouer l'un avec l'autre. Donc, on va voir. Il y a du respect. Voilà. Ils savent qu'ils sont dans le dur. Est-ce qu'ils vont trouver les clés pour cette saison? En tout cas, c'est bien pour nous. C'est bien pour le challenge là, de fin de saison. Ça relance un peu les débats là, qui va être numéro 1.
Ouais. Ça, c'est vrai que ça va être intéressant, ça. Moi, j'ai l'impression, Jean-Luc, que ça y est. En fait, on en parlait un petit peu. Et c'est vrai que moi, j'émettais cette théorie-là. Je pense qu'ils ont tapé sur un mur pendant 2 saisons et demie. Et là, il y a un déclic. Ils ont fait sauter le verrou. Alors, bien évidemment, ça coïncide avec une baisse de performance de Tapia, probablement un coup de moins bien physique. Mais j'ai quand même la sensation que Chingoto et Galan, c'est, ils ont appuyé sur l'interrupteur et ils ont trouvé le chemin, quoi.
Ouais, ils ont trouvé certaines clés tactiques. Mental aussi, probablement. Et je pense qu'ils abordent mieux ces matchs-là. C'est un peu toujours la même finale quand même, une exception ou deux près dans la saison. Donc, ils ont pris l'habitude de se jouer. Ça fait 3 ans maintenant que les autres ont une archi-domination, Kuala Tapia. Donc, c'est très bien qu'ils aient trouvé les clés. Et il y a quand même eu... Moi, je trouve qu'il y a un élément fondamental dans cette montée en puissance, c'est le niveau de Chingoto qui a explosé.
Stratosphérique.
Il est quand tu regardes ses stats en fin de match, le nombre de fautes qu'il ne fait pas, c'est hallucinant. Et aussi, il arrive à beaucoup plus conclure de points, etc. Il construit très bien. Donc, je pense que c'est lui qui est vraiment monté de niveau par rapport à un Galan que moi, je trouve exceptionnel depuis plusieurs années.
Ouais.
Quoi.
Dans la régularité, ouais, Galan, ouais, il est au niveau. Ouais. Tu partages ça, JT? Chingoto, c'est un peu la clé de ce début de saison. Et est-ce que tu as vu des adaptations un peu techniques sur ce début d'année, là, dans les confrontations qu'on a pu voir? Est-ce que tu sens qu'il s'est passé des petits trucs dans le jeu entre les deux paires?
Je sens que la mayonnaise est en train de prendre avec Galan Chingoto. Ça fait quoi, 2 ans? C'est la 3e saison qu'ils sont ensemble. Donc les automatismes sont encore plus clairs. Ils sont dans des conditions favorables. Ils sont dans un espèce de tempo aussi où ils sont en pleine confiance. Les autres un peu moins. Dès que tu baisses un tout petit peu de 10% dans ce sport, dès que tu trouves une petite brèche, ben voilà, ça s'inverse, quoi. Donc, Galan Chingoto...
Ouais, mais 1 et 2, quoi. 6-1, ouais, 6-2, c'est...
Ouais, c'est ça. Là, c'est pas la défaite.
Il y avait eu un match comme ça.
Il n'y a pas match, quoi.
De raccro, 5-6.
Il y avait eu un match comme ça à Gênes, au P2 de Gênes, la première saison en 2024 de premier paddle, où pareil, Galan Chingoto a gagné 6-2, 6-2 sur Kuala Tapia, juste avant la fin de la tournée estivale. Je me rappelle très, très bien de ce moment. Kuala Tapia était parti pendant un mois s'entraîner, était revenu à Bâle. Ils avaient fait une fin de saison en boulet de canon. On va voir, je pense vraiment... Alors, ce Galan Chingoto, vraiment, sont très, très forts, mais c'est dû aussi vraiment à la baisse, pour moi, de Kuala Tapia, qui... c'est dur d'enchaîner des saisons, de tout le temps gagner. Ils ont peu de temps de préparation, ils ont peu de temps pour partir en vacances, ils ont peu de temps pour se remettre en forme aussi, préparer les saisons et les enchaîner. Ils ont beaucoup de sollicitations médiatiques, de sponsors, donc forcément, leur performance sur le terrain aussi est un peu moins bonne en ce début de saison.
Et tu crois qu'ils sont vraiment plus sollicités que Galan et Chingoto, par exemple?
Non, je pense pas.
Ouais, c'est ça,
je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Après, on sait pas. Peut-être qu'il y a eu des petits pépins, des petites blessures.
Ouais, ouais. Non, mais ça,
qui ont pu moins aussi faire la pré-saison comme il se doit. Ça se trouve, les autres ont pu vraiment avoir un gros bloc de préparation très important.
Ouais, et puis on le dit depuis plusieurs mois quand même. On voit que Tapia,
oui,
quand il vient sur des tournois,
traîne un peu la patte des fois.
T'as l'impression il est 4 heures en soins après chaque match, oui. Même quand les matchs sont courts, tu sens qu'il y a des trucs à gérer, quoi, au niveau physique.
Mais il en parle pas. Il garde ça pour lui. Il est très secret et on le voit à la télé. Il a du mal un peu à se déplacer. Il a du mal à enchaîner Vibora, revenir vite au filet. Galan recouvre la balle et prend vite l'ascendant, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et puis aussi, Nico, là, à Buenos Aires, les conditions, ça sort pas trop.
Ouais.
Ils ont pris un peu la moquette du Betclic Bordeaux premier paddle. C'était magnifique à la télévision. Et donc, c'est dur. Les échanges durs. Colo, ils peuvent un peu moins intervenir. Après, voilà, ils ont une manière de jouer qui est quand même très particulière. L'autre qui est demi-terrain tout le temps. Si Tapia, il n'est pas très performant à faire des allers-retours et à prendre la domination, à reprendre le filet, c'est difficile. Donc,
est-ce que la montre n'est pas trop lourde?
Est-ce que la montre n'est pas
du
trop
nouveau
lourde?
Partenaire.
Je sais pas.
Mais par exemple, non, mais je veux dire, tu parles d'ultra sollicitation. Est-ce qu'à un moment donné aussi, ces joueurs-là hyper exposés depuis 4 ans, qui sont les premiers mondiaux, on sait que Coelho a rentré des contrats chez On, chez Golden Goose, chez
Rolex.
Rolex voilà, oui. Tapia, Audemars Piguet, etc. Est-ce que ils sont pas aussi ultra sollicités et est-ce que il y a pas une gestion aussi de cette place de numéro 1 mondial à assumer totalement entre le sportif, l'extra sportif,
mais bien entendu,
et les enjeux financiers qui y accompagnent.
Tu te rends compte que là, ça fait deux ans, ils finissent le Masters de Barcelone aux alentours du 15 décembre, je pense à peu près, si je dis pas de bêtises, et tu renchaînes au Payan Riyad fin février.
Ouais, t'as un
bon, la période elle est courte pour peu que il avait un peu des pépins, Tapia au coude, tendinite, voilà, des sollicitations médiatiques, le bloc de pré-saison, bah il est pas bien fait. Bah, résultat, avec tous les voyages enchaînés, tout ça.
T'as quoi, t'as 2-3 semaines de vacances avant de reprendre, c'est ça ?
Souvent, c'est ça. C'est-à-dire, les périodes de fin d'année, tu reprends début janvier rapidement. Hein,
ouais, c'est une petite coupure.
C'est une toute petite coupure. Et 6 semaines après, t'es à Riyad. Et tu défends tes points. Donc, c'est dur de garder ce rythme-là. Donc, écoute.
Et puis, il y a peut-être un truc aussi, et moi, je rejoins totalement Jean-Luc, c'est qu'on est sur des joueurs qui, maintenant, quand t'es atteint ces sphères-là, peuvent gagner très, très bien leur vie. Et t'as peut-être aussi le côté carrière et après padel qui se construit dès maintenant avec des sollicitations sur lesquelles tu t'investis peut-être beaucoup plus parce que t'as moyen de faire rentrer beaucoup d'argent sur plein de contrats. Et je vais pas dire que tu délaisses le sportif, mais...
Non, parce que ces sollicitations, si t'es pas numéro 1 mondial, tu les as pas.
Oui, mais je pense qu'ils ont tellement de marge que peut-être que t'essaies de capitaliser un petit peu plus,
ouais, l'avance.
Tu vois, avec cette avance-là sur tout ce qui est contrat sponsoring. Moi, j'ai l'impression que toutes les deux semaines maintenant, on nous annonce à l'arrivée d'un nouveau partenaire, et j'ai l'impression que Coelho, il a signé avec une nouvelle marque, et pareil pour Tapia, et pareil pour Chingoto. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'arrivées de partenaires autour de Premier Padel et chez ces joueurs-là. Je dis pas que ça les fait vriller.
Oui, après, quand
là,
tu pars de zéro, ce qui est le cas de ce sport, il y a encore
ça,
2021, je crois, la création du Tour Premier Padel, donc... oui, c'est normal aussi que.
Quand tu vois les contrats, les zéros à la fin, tu te dis, je vais peut-être essayer de mettre mes enfants à l'abri aussi et en profiter maintenant, non ?
Ouais.
Et ce serait complètement humain. Donc, alors que les autres, ils ont la dalle d'aller chercher cette première place.
En tout cas, c'est indéniable. Tapia et Coelho sont moins performants sur le terrain, hormis la défaite, mais ça se voit hein, vraiment à la télévision. Pendant les matchs, ils sont moins performants que l'année dernière.
Même dans le body language.
Donc j'attends de voir quand les deux équipes sont vraiment à leur prime, parce que là, pour le coup, Galan Chingoto sont vraiment dans une période où ils sont en pleine confiance. Tapia Coelho, ils vont revenir, ils vont pas pouvoir finir la fin de saison comme ça. Après, cela étant dit, c'est que contre eux qui ont des problèmes, parce que les premiers tours, voilà, ça va, tu vois, ils sont quand même supra solides. Donc.
Du coup, JT, toi qui sens bien les choses.
Ils vont gagner à Rome. Voilà.
Allez.
Tournoi outdoor avec une canicule.
Exactement, ouais. En conditions chaudes. Galan, qui est invaincu là-bas, je crois, ou qui est le plus titré au Major de Rome, si je dis pas de bêtises. Bon, j'annonce victoire de Tapia Coelho pour relancer un peu le truc. Mais en plus, c'est un grand chelem, voilà, ils choisissent leur date.
Je vous dis ça
à chaque émission.
Moi, je crois qu'il avait annoncé Coelho Tapia à Buenos Aires.
Vous avez dit Tapia,
Buenos Aires Machine. Ouais. Parlons un petit peu.
Après, vous annoncez rien, vous aussi. Il n'y a que moi qui me mouille.
Mais c'est toi le pro. Nous, on n'y connaît rien.
Nous, tu sais, on est là, on passe les plats, avec Jean-Luc. Chez les femmes, victoire de Paola José Maria et de Bea González, qui confirment quand même que cette nouvelle association est ultra performante contre Gemma Triay et Delphi Brea. Le score en finale, Jean-Luc, 6-3-7-5. Ouais. Conforme à ce qu'on dit depuis le début de saison.
Oui, peut-être un peu plus dur cette fois, parce que tu regardes sur leur tour, elles ont eu des matchs en 3-7. Elles ont été ferraillées pas mal. mais elles sont là pour la quatrième fois consécutive et c'est tout à leur honneur. Et moi, j'adore cette paire, donc je suis ravi.
Moi aussi. Bea González, franchement, qui a retrouvé son niveau à fond là, depuis le début de saison, c'est vraiment top. Tiens, je voulais vous parler d'une petite... Attends, non, avant Jean-Luc, quand même, parle-nous quand même de cette affluence. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec toi, l'organisateur de tournoi, mais 17 000 personnes en moyenne. Alors oui, c'est en Argentine. Oui, en Argentine, il y a plus de joueurs de padel que de joueurs de tennis, par exemple.
Oui, mais ça contraste énormément avec le tournoi de la semaine précédente, Asunción. Où ils avaient du mal à remplir en dehors du week-end, en dehors des phases finales. Donc l'Argentine reste une destination padel et une capitale mondiale du padel, évidemment. On est admiratif, nous, qui avons du mal à...
C'est ce qu'on fait sur une semaine.
Ouais, c'est ce qu'on fait sur une semaine. Ils le font en une journée. C'est remarquable. Enfin, effectivement, moi, j'avais déjà vu ça avec Gito. On avait été au Masters l'année dernière.
Barcelone. Ouais.
Au Palo San Jordi qui fait aussi 17 000 places et qui était plein également pour les Masters, donc c'était déjà une très belle ambiance. Là-bas, ça avait l'air d'être génial. Ils étaient tous en doudoune, hein, parce que c'est pas la même saison. Mais malgré tout, c'est top.
Ouais, franchement, allez voir des images. Si vous voulez découvrir un peu le padel de très très haut niveau, là, que vous commencez à écouter Viva Padel, que vous connaissez pas trop les joueurs, franchement, allez chercher sur YouTube là, des images du PN de Buenos Aires. Vous allez voir l'engouement. Ça rend ce sport d'autant plus beau. Les gars, tiens, je voulais quand même qu'on profite d'un truc. Semaine de Roland-Garros. Bon. On est obligé de parler de la décla de Sanyo Gutiérrez. Vous savez ce qu'il a dit, Sanyo Gutiérrez ?
J'ai vu passer ça, oui.
Alors, je vous lis la décla de Sanyo, qui est un monstre du padel mondial, hein, pour ceux qui allez taper là, sur Internet, Sanyo Gutiérrez. Vous allez voir un peu le profil
C'était un ancien numéro 1
mondial, coéquipier de Fernando Belasteguin pendant très longtemps, argentin.
Fort Jean-Luc.
Ouais, il est très fort Jean-Luc, il bosse. Si Coelho Tapia joue Sinner et Alcaraz, il les bat 6-0, 6-0 sur les 30 matchs qu'ils ont à jouer, ils ne donnent pas un seul jeu. Moi, je me suis dit, premier truc, est-ce qu'il exagère ? Est-ce qu'il en fait pas trop, là, quand même, Sagno ?
Oui, il exagère un petit peu. Il n'a pas forcément tort, cela dit.
Zéro, pas un jeu.
Mais si,
matchs.
Peut-être qu'il y a un jeu sur un jeu de service. Non, mais je veux dire, la différence, elle est abyssale. Tu peux mettre Carlos Alcaraz et Sinner sur un terrain de paddle contre Coelho Tapia, c'est...
Mais parce que moi, je me dis que Alcaraz, Sinner, ils se font jamais lobés en fait sur un terrain de padel, tu vois.
Non, mais même, non. Tu les vois gagner, toi, peut-être.
Non.
Si, moi, je me méfierais d'Alcaraz parce qu'il a quand même grandi en Espagne. C'est juste ça.
Non, mais moi, je les vois absolument pas gagner. Mais je me dis 0-0 sur 30 matchs.
Non, mais si tu veux, ça, c'est la décla. Mais il veut pas dire ça. Il veut dire que c'est vraiment, c'est 1-1, 1-0. Tu vois, il y a une grosse différence de niveau.
Ouais, il veut dire que c'est deux sports complètement différents. Oui. Et tu mets les numéros 1 mondial des deux sports, il n'y en a rien. Rien à voir. Et si on met Coelho Tapia sur un terrain de tennis en double ?
Bah, ils prennent 6-0, 6-0 sur Sinner Alcaraz, quoi. Voilà, tu vois.
Le terrain est trop grand.
Ouais, exactement.
D'accord.
La raquette est trop grosse.
T'en as vu, JT, toi, dans ton académie, des anciens joueurs de tennis de très bon niveau démarrer une activité padel. Qu'est-ce que ça a donné en termes de niveau quand ils arrivent
De très, très haut niveau de tennis. Qui ont démarré une activité paddle. Il y en a un là qui est en train de s'y mettre, c'est Enzo Cuoco.
Oui, à Paris, Cuoco, un peu qui tourne.
Qu'il avait pris un set à Djoko à
Melbourne. On va en parler dans quelques minutes, mais il était à Marne-la-Coquette.
Ouais, exactement. Voilà, qui se lance. De très gros joueurs de tennis.
Il va falloir qu'on l'appelle Enzo, d'ailleurs.
Moi, j'ai joué avec les anciens. J'ai joué avec Nicolas Scudé, avec des joueurs comme ça.
Ça jouait tranquille, là. Oui. Enzo Cuoco, c'est vraiment... Il s'est monté sérieusement.
Je veux dire, Enzo Cuoco, il a été... Je veux dire une bêtise, mais il a été top 150 mondial au tennis, un truc comme ça.
Ouais.
Il a pris un set à Djoko à Melbourne.
Exactement.
Il a été professionnel. C'était un des meilleurs Français de sa catégorie. Il se lance à fond au paddle. Bon, est-ce que ça sera Bastien Blanquet ? Ma réponse est non. Il peut s'entraîner 10 ans pour ça.
On peut parler de Jules Marie, hein,
qui a été top 200 mondial au tennis. Et moi, j'ai plein de potes à moi qui ont été promo, moins 30, première série, 200e mondial au tennis. On a commencé le padel ensemble. C'était pas fait pour eux. Le très bon joueur de tennis de haut niveau, s'il a pas envie d'apprendre vraiment et à déconstruire tout son passé tennistique, il peut pas rivaliser, c'est impossible.
Bon, on va appeler Enzo Cuoco dans le prochain podcast.
Ah ouais,
le rendez-vous est pris. Bon, les gars, on a fait le tour de l'actu internationale. On va se plonger un petit peu sur nos Frenchies là, qui ont gagné un FIP bronze à Marne-la-Coquette. C'est parti.
Viva Padel.
Les Français de la quinzaine, les gars, on va s'attarder sur un duo de jeunes Frenchies, JT, qui a remporté le FIP bronze de Marne-la-Coquette. C'était il y a une grosse semaine maintenant, il y a une semaine. Jérémy Robert, Olivier Guy de Chamisso qui se sont imposés dans ce FIP bronze. Et on est avec Jérémy Robert en ligne. Salut Jérémy.
Salut, ça va ?
Ouais, très bien.
Ça va, les gars ?
Alors,
salut.
Jérémy qui est au téléphone. T'es en partance pour la Suède, hein, c'est ça,
ça va,
Jérémy ?
Ça va très très bien. Grand bravo. Grand bravo
pour la Suède. Merci, ça fait plaisir.
Bon, Jérémy, il faut que tu nous racontes ce tournoi là avec Olivier. Comment vous êtes arrivé à aller chercher ce tournoi? Mine de rien, il y avait pas mal de joueurs français qui étaient présents. Des têtes de série sont un peu désengagées. Il y avait l'opportunité de faire un coup, mais vous avez su saisir le moment pour le faire.
Exactement. Bah, au premier tour, ouais, on a joué des Français, du coup. Nathan Courant et Thomas Seux. Dans un match plutôt très compliqué, vu qu'on sauve une balle de match, quoi.
Ouais.
Et ben, on finit à gagner le match. Et puis après, on a su saisir l'opportunité, comme tu dis. On a battu la TS4 en demi et la TS3 en finale, quoi. Donc, franchement, on a fait un très beau parcours en sauvant des balles de match au premier tour. Ça fait toujours plaisir, hein.
Qu'est-ce que ça représente pour toi d'aller chercher un FIP en plus avec un jeune Français, même génération, même catégorie d'âge? Enfin, vous représentez l'avenir du padel français.
Bah, franchement, c'est une grande fierté, surtout que c'est dans notre pays, en France, pour notre premier FIP. Moi, c'était un grand objectif pour moi de gagner un FIP comme ça. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver cette année. Mais franchement, très grande fierté, et avec Olivier encore plus, vu que c'est un très bon ami à moi. On s'entend très bien en dehors et tout ça. Donc, franchement, on était très contents. Ouais.
JT, c'est un signal important. Alors, on va relativiser quand même, parce que c'est vrai que sur ces FIP bronze, on le disait, il y a quand même des joueurs qui sont désengagés. Et voilà, le tableau n'était pas aussi relevé que sur le papier avant le début du tournoi. Malgré tout, oui. Deux Français de moins de 18 ans qui vont claquer une perf comme ça, c'est jamais anodin. Hein.
Ouais, non, c'est jamais anodin parce qu'il y avait quand même du beau monde dans ce tournoi. Bon, il y a eu Antonio Fernandez et Thomas Lay qui ont déclaré forfait parce que bon, c'est dur pour Thomas, mais son partenaire s'est blessé. Mais il y avait une grande partie de l'équipe de France qui était présente, Bastien Blanquet, Johan Boronade, les anciens Adrien Ben, des joueurs top 200 mondiaux. Donc, on a vu plein de matchs très accrochés où tout le monde pouvait battre un peu tout le monde. Il y a eu plein de matchs un peu très serrés, les conditions étaient chaudes, c'était en extérieur. Et donc, c'est jamais anodin de gagner ce type de tournoi, d'aller au bout. Jérémy l'a très bien souligné, ils ont joué deux joueurs français aussi qui connaissent bien, Thomasseux et Nathan Courin. Ils ont sauvé des balles de match, ça a été très difficile, mais quand même de soulever le trophée, ça dénote quelque chose, ça dénote une maturité, ça dénote le niveau de jeu est là. Et c'est de très bon augure, c'est deux jeunes qui sont de 2008, c'est un peu notre nouvelle génération. Je pense que c'est sans doute l'avenir de l'équipe de France senior. En tout cas, je pense que très vite, ils vont devoir y contribuer pour élever ce niveau-là. C'est deux joueurs qui s'entraînent très bien, qui performent. Moi, je les vois évoluer et je sens que cette année, il y a un gros coup d'accélérateur, en tout cas pour Jérémy et Olivier. Donc, c'est un grand bravo pour ce premier FIP.
Jean-Luc, est-ce que tu as une question pour Jérémy sur son projet, peut-être un peu global?
Oui, bah oui, c'est de... Le paddle, c'est un peu comme le golf. Tu joues beaucoup, tu fais beaucoup de tournois, mais tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, quand tu gagnes, je trouve que c'est génial. Et puis, comme dit JT, ça fait gagner en expérience. Est-ce que Jérémy a une volonté de continuer à jouer des tournois ensemble avec Guy, ou est-ce que c'était vraiment un one shot tous les deux? Comment vous voyez la suite?
J'adore cette question.
Alors, avec Olivier, déjà, on joue très bien. Bon, c'était pas la première fois qu'on joue ensemble. On a déjà pas mal joué ensemble. Ça fait déjà longtemps. Mais là, je vais me lancer sur un projet avec Maxime Joris, normalement.
Ouais.
Donc, sur les prochains tournois, je vais jouer avec Max. Donc, non, là, dans le futur, avec Olivier, on va moins jouer ensemble, en tout cas. Mais bon, on pourra rejouer ensemble, parce qu'on sait qu'on s'entend très bien, on joue très bien ensemble.
Ça restera un bon
du
souvenir.
Coup, voilà, ouais, sur le projet long terme, on va essayer avec Maxime Joris, en tout cas, là.
Ok, Jérémy, parle-nous un petit peu de tes conditions d'entraînement. Comment tu t'es mis dans le padel, quoi, toi, comment tu as réussi à accéder au très très haut niveau, qu'on te découvre un petit peu, que le grand public qui nous écoute là te découvre.
Est-ce que tu viens du tennis déjà?
Ouais.
Oui, je viens du tennis. Ouais.
T'as arrêté à quel âge le tennis pour basculer sur le padel?
J'ai arrêté au début, quand j'ai commencé le paddle, je crois que c'était en 2021, j'ai fait 2 années où je m'entraînais au tennis et au paddle en même temps.
Okay.
Et je pense que là, ça fait, je dirais quoi, 2-3 ans, 2 ans peut-être que j'ai complètement arrêté le tennis et que je m'entraîne à fond au paddle, quoi.
Ouais, et du coup, tu t'entraînes où et c'est quoi ton projet un peu pro?
Du coup, moi, je m'entraîne à la All In Paddle à Lyon, à Décines, avec Johan Bergeron comme coach, Arnaud Tabonnier, et là, ils ont recruté un coach espagnol, enfin un coach argentin, Nico Gavino, qui vient 1 semaine sur 2.
Okay.
Donc franchement, les entraînements, ça se passe très bien, bonnes infrastructures. Et moi, mon projet, franchement, c'est de continuer à m'entraîner là-bas, progresser encore plus et devenir joueur pro. Hein.
On parlait un peu de l'équipe de France, là, JT en parlait. C'est un truc qui fait rêver, Jérémy, forcément. Hein.
Ouais, là, c'est mon plus gros objectif de l'année, je dirais.
Ouais, essayer d'aller gratter une petite sélection sur le stage là et de mettre la tête, montrer le museau quoi en équipe de France.
Dans la hiérarchie, Jérémy, tu es classé combien toi en France?
Là, je suis 11e français, je suis passé 11e français.
Ok. Bon, tu vas jouer du coup en Suède là. T'es pas parti, c'est ça? Il y a des galères d'avion. Bah, c'est aussi ça, hein, les flips. Hein. Ouais. Les problèmes d'avion, les gars, c'est pas facile. Hein.
Bah là, j'ai du retard. Je pars à 15h40. Donc voilà, une heure de retard. Et du coup, ma correspondance à Paris a été décalée. Au lieu d'avoir l'avion à 16h50, je pars à 21h de Paris.
Aïe, aïe, aïe.
Ah ouais. Il y a tout qui a été décalé avec le retard. Du coup, j'arrive à 23h là-bas.
Ça va pas taper la balle ce soir, quoi.
Maxime va être ravi.
Non, impossible.
Bon, Jérém, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Tu prends ton avion dans quelques minutes. Là, bon voyage en Suède. En plus, c'est des tournois, il y a toujours de l'engouement. Donc, profitez bien et à très vite dans Viva Padel. Bye bye.
Merci, c'est très gentil.
Salut, Jérém.
Salut, Jérém. Ciao. Jérémy Robert, qui, on le disait, incarne cette nouvelle génération de talents. Alors, il ne fait pas partie, JT, de cette génération, un PECNE à Vichy, le centre national là, qui s'est monté ou qui a ouvert ses portes quoi, il y a un an désormais, une grosse année, on va dire.
Alors, je ne sais pas s'il n'en fait pas partie parce que Guy Chamisso, Olivier, est au CNE. Alors, ouais. Je ne sais pas si c'est une volonté de Jérémy d'être resté dans l'académie à La Oline ou qu'ils font du super boulot. Ou il n'a pas été pris, ça, je n'ai pas l'info, mais... Mais non, en tout cas, c'est un joueur qui a un grand avenir. Si je peux me permettre, Nico, on parlait là des pairs, tu vois, Olivier Guy Chamisso, à qui tu vas jouer, tout ça. Si je peux tirer un petit coup de gueule quand même, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que là, ce que je remarque en tout cas chez les Français, c'est on laisse pas sa chance au produit, quoi. Très rapidement, là, si on prend les pairs du début de saison, j'ai envie de te dire...
Ça tombe dans tous les sens.
Je crois que toutes... à part nos vieux de la vieille, Adrien Ben, mais je ne les mets pas dedans, je crois que toutes se sont séparées.
Ah oui.
Ouais. Et ça, si tu veux, je trouve quand même que ça dénote, et surtout chez les jeunes, quoi. Je pense qu'il faut laisser les schémas de jeu s'installer, de progresser ensemble, de ne pas, à la moindre petite défaite, remettre en cause le projet avec son partenaire. Et je pense que ça risque d'être préjudiciable.
Le problème, JT, c'est que la plupart de ces pairs ne s'entraînent pas ensemble.
Oui, mais ça c'est pas très grave parce que.
Mais comment t'expliques ça? Moi, je comprends pas en fait. J'ai du mal à comprendre. C'est quoi? C'est de la jeunesse, c'est la culture de l'immédiateté. Si on veut perfer en deux tournois.
C'est un peu ça. Et puis c'est un peu le paddle moderne parce que même à tout niveau, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'à part les meilleures pairs, toutes meilleures pairs, ça bouscule tout le temps. Nous, on est tout le temps à le dire. On aimerait bien qu'il y ait des saisons de mercato. J'avais osé espérer que avec la fédération, le CNE, les choses changent un petit peu et au final je me rends compte que c'est pas le cas.
Tu veux dire que même certains joueurs du CNE, on va pas citer, mais même ces joueurs là qui sont structurés, encadrés pour se développer, parce qu'à cet âge là l'objectif c'est pas forcément peut-être d'être performant tout de suite à très court terme, mais t'as un projet à moyen, à très long terme, même ces joueurs là sont un peu volatiles et vont s'éparpiller parce qu'il y a des projets qui arrivent un peu dans tous les sens.
Non mais oui. En tout cas, voilà, on va remettre en cause la paire dès la première défaite ou dès s'il n'y a pas de grosses victoires de suite, si tu veux, on va pas laisser un peu sa chance au produit. Donc là, je vois.
Mais moi, je pense que le produit n'existe pas, si tu veux. Quand tu partages la même académie, que tu t'entraînes, que tu mets en place des plans de jeu, des stratégies, que tu vois comment évolue le partenaire, etc. Il y a moyen effectivement de fabriquer un produit qui est une équipe. Mais eux, ils se retrouvent que pour les tournois.
Pas forcément.
Et ils gèrent beaucoup de défaites, en fait.
Pas forcément, tu vois, parce que regarde, Maxime et Jérémy, Maxime vient de temps en temps à Lyon s'entraîner, Jérémy peut venir à Bordeaux, Lucas et Olivier a passé une semaine à Bordeaux. Moi, je pense pas que ça soit obligatoire de s'entraîner toute l'année ensemble sur la piste. Je veux dire, bien sûr qu'il faut qu'on passe du temps à s'entraîner ensemble, mais c'est aussi, quand on est tout le temps ensemble, ça crée aussi des tensions dans la perf. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que il n'y a pas une paire française qui perdure. On est en juin et il y a tout qui chamboule. On va se retrouver avec un championnat de France où les paires qui se sont engagées, il n'y en a aucune qui va jouer avec son partenaire.
Ce qui est assez surprenant, en tout cas, moi, de mon point de vue extérieur, c'est que les paires françaises qui ont réussi, c'est quand même des mecs qui se sont installés dans le temps. Bien évidemment, Tison, Maigret, qui ont joué longtemps ensemble, avec des projets internationaux différents, mais qui se sont toujours retrouvés ensemble à un moment. Blanc-Kelleg, mine de rien, c'est des années aussi ensemble à faire des tournois, des P2000, des P1500, des championnats de France pour performer. Guichard, Vives, c'est des mecs qui ont vécu ensemble. Enfin, il n'y a pas de secret. Pour gagner, faut des fois passer par des moments compliqués.
Ouais. Après, chaque cas est différent. En tout cas, de ce que je remarque, il y a des paires là, qui se séparent, alors que leurs résultats sont plutôt positifs. Donc je pense qu'on veut aller aussi un peu trop vite. et qu'on prend pas le temps de travailler, on prend pas le temps de s'installer. Il y a plein de paires qui ont fait juste 4-5 tournois début de saison avec des plutôt bons résultats. Et à la moindre petite défaite, baf, on sépare, on casse la paire, on repart. Donc au final, il n'y a pas de lien, quoi. Voilà, je trouve que c'est très individuel, tout ça. Et je pense que pour
Est-ce que JT, il n'y a pas aussi un élément perturbateur là, qui arrive, qui sont les deux tournois premier paddle français qui vont générer de la wildcard.
Ah, mais bien sûr.
Et qui génèrent un peu de politique dans, dans l'association, dans les associations possibles.
Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, forcément, ça y joue. Donc, il y a aussi beaucoup de choix qui sont faits aussi par intérêt de points, pas par intérêt de performance. Comme tu l'as dit aussi, forcément, par intérêt par rapport aux invitations de wildcard. Voilà, tu vois, je prends l'exemple de Timo Fontenay, qui est peut-être notre futur numéro 1 espoir, quoi. Vraiment très fort. Ils jouent avec Joan Bergeron. Ils ont connu une tournée sud-américaine très difficile.
Ouais.
Ils sont partis, ils ont pris deux premiers tours. Ça leur a coûté très cher en voyage. Ils se séparent alors qu'ils ont battu des mecs 35 mondiaux trois semaines avant. C'est la plus grosse performance d'une paire française. Paf, ça se sépare sans doute pour de bonnes raisons. Là, on voit Bastien Blanquet et Johan Boronat qui ont connu une mauvaise défaite dans des conditions difficiles contre Adrien et Benjamin. Paf, la paire explose. Ouais. On a le droit de perdre, quoi. Je veux dire.
C'est un sport où on gagne pas beaucoup, surtout Jean-Luc le disait tout à l'heure.
Je veux dire, alors que les résultats sont quand même un peu là. Je veux dire, alors je vais prendre l'exemple du mien parce que ça m'a beaucoup affecté. Ça. Lucas Pillon et Léo Olivier Guichamisso. Ils réalisent des très bons tournois, ils ont battu des mecs 130 mondiaux, ils font 7-6, 7-5 sur des mecs top 50, on était parti sur un projet à long terme, et là, au bout de 5 tournois, on décide de casser la paire, je sais pas pour quelle raison, je trouve ça...
Tu as Manne Vives et Max Joris aussi qui ont gagné à Singapour et qui jouent plus ensemble.
Là, pour le coup, je pense qu'ils sont allés là-bas parce qu'ils pouvaient se permettre d'aller là-bas tous les deux ensemble, mais c'était déjà prévu qu'ils jouent ensemble. Mais exactement. Donc là, Manuel Vives se retrouver à jouer avec Olivier Guichamisso, Jérémy Robert avec Max Joris. Bon,
les feux de l'amour.
C'est un peu ça. Ouais, voilà.
Principal enseignement de cette histoire, écoutez Padel tous les 15 jours pour y voir clair. Parce que là, déjà, dans toutes les explications, moi, je suis complètement paumé.
Ouais, je sais. Mais c'est ça, c'est exactement la phrase du c'est les feux de l'amour. Un petit peu trop à mon goût, voilà.
Juste pour terminer cette petite rubrique, est-ce qu'il y a des Français qui ont perfait un peu là, dans les 15 jours? Est-ce que Manne Vives et Max Joris sont allés en Asie, ça s'est bien passé?
Oui, ils ont gagné aussi un fille bronze dans la première tournée. Ça a été plus dur sur les deux tournois suivants, mais ils ont le mérite d'avoir gagné ce tournoi-là. Remporter un titre, c'est toujours chose pas évidente, donc c'est très bien. Ensuite, ça a été un petit peu plus dur sur les deux tournois suivants. Là, va y avoir deux tournois importants qui vont s'enchaîner en France, deux FIP en France encore.
En fait, on a quand même deux tournois FIP qui ont été gagnés par des Français sur les 15 derniers jours, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc, il faut se réjouir, même si on peut se poser d'autres questions. Vu la multiplicité de ces tournois FIP, il y en avait moins avant maintenant.
Sur la densité de niveau.
Oui, la densité de niveau, mais ça donne de l'ouverture et la victoire, elle est bonne à prendre.
Il faut les prendre.
Oui, bien sûr.
Et Jean-Luc, on notera quand même les perfs difficiles de nos Français. On en parlait un petit peu, mais en Amérique du Sud. Toutes les paires qui sont engagées sur le circuit premier padel, que ce soit au Paraguay ou en Argentine, ça a été
ouais, ça passe un tour de qualif et pas plus, quoi. Donc, effectivement, c'est un peu sévère, ouais.
Les amis, je vous propose tout de suite de se plonger dans une autre thématique, l'organisation d'un tournoi premier padel, puisqu'on est à un mois du Betclic Bordeaux premier padel et on va accueillir la team du tournoi. Allez, let's go.
Viva Padel.
La team du Bordeaux Betclic premier padel s'est installée avec nous, Hervé Falleuilleux et Johan Le Léanec. Salut les amis.
Bonjour Nico.
Bon, on est ravis de vous avoir. Alors les gars, vous pouvez vous passer le micro pour bien parler à chaque fois. Jean-Luc, pourquoi on a convoqué la team du Betclic Bordeaux premier padel? Parce qu'on est à un mois de l'événement.
Oui, que ce sont les meilleurs.
Je te laisse maître de tes propos. Je ne me prononce pas, je reste neutre. Non, mais moi je m'étais noté une petite question. L'angle qu'on voulait faire, c'est est-ce que c'est trop difficile d'organiser un tournoi premier padel? Parce qu'on sait qu'il y a un cahier des charges de fou, pour vous, les promoteurs et toute l'équipe, c'est quelque chose de compliqué d'organiser un P2 comme celui de Bordeaux. Donc, on a convoqué les gars un peu pour qu'ils nous racontent leur quotidien dans l'organisation d'un tournoi de cette dimension-là.
Oui, alors là-dessus, moi j'aimerais bien entendre Hervé parce qu'il fait ça depuis des années, il monte des événements sportifs de tout niveau dans plein de sports et c'est vrai que Hervé, si tu pouvais nous donner un petit comparatif entre le cahier des charges premier paddle et des cahiers des charges que tu as pu gérer sur d'autres niveaux de compétition internationaux. Voilà, que tu nous donnes un peu ton sentiment. Moi, je trouve ça extrêmement dur, mais j'ai jamais fait autre chose, donc forcément, je trouve ça dur. Maintenant, je crois que c'est quand même très, très exigeant. Ouais.
Alors oui, tout démarre du cahier des charges qu'on reçoit de premier paddle. Ce qui est très différent par rapport à d'autres sports comme voilà, ce que j'ai pu faire dans le football, le rugby, c'est que déjà sur les autres événements, on travaille sur des sites sportifs qui sont conçus pour ce ouais. sport-là. Alors que là, on doit amener un sport dans une infrastructure qui n'est pas prévue pour celle-là. Donc déjà, il faut monter toute l'infrastructure. Et la difficulté sur le paddle, c'est la hauteur minimale de plafond. Parce qu'on pourrait... Bon, aujourd'hui, on est à la patinoire. On est très content d'être à la patinoire. Mais on pourrait imaginer de le faire dans plein de lieux, mais très peu répondre en fait à la contrainte qu'on a sur la hauteur de plafond.
En indoor, c'est très compliqué. À Roland-Garros, sur le majeur, à Paris, ils n'ont pas ce problème-là. Mais pour un tournoi indoor, c'est super dur de répondre au cahier des charges premier paddle avec cette hauteur sous plafond, Hervé.
Oui, bah, y a la principale difficulté, la première à régler sur le choix de la salle, c'est déjà la hauteur. Et après, bah, y a la capacité de la salle d'accueillir notamment trois terrains avec les sorties. Et là, à la patinoire, on rentre sur la surface de glace qui fait 60 par 30. On rentre pile, mais à 10 cm près, les trois terrains. Quoi.
Ouais, il faut réussir à gérer l'accueil du public aussi, Jean-Luc. C'est quoi les principaux enjeux là, quand on accueille un tournoi comme celui-là, gérer avec Premier Padel toutes leurs conditions, c'est quoi les choses les plus difficiles à mettre en place pour toi?
Bah, comme dit Hervé, il faut transformer une enceinte qui n'est pas faite pour ça. Nous, le choix était très, très limité à Bordeaux sur des enceintes qui sont à peu près à 17 mètres de haut parce qu'une fois que tu as mis la surface, enfin, l'air de jeu, la hauteur de jeu, il faut aussi placer toute la technique. Pour retransmettre des matchs de paddle à niveau international via un signal international avec une quinzaine de caméras qui retransmettent ça dans plein de pays, c'est beaucoup d'installations autour du terrain, donc c'est beaucoup de technique. Et c'est une ergonomie de lieu à transformer. Et autour d'un setup comme ça, qui doit être parfait, avec des visibilités des sponsors internationaux, nationaux, régionaux, donc qui sont en visibilité télé ou en visibilité salle ou en visibilité un peu réduite à d'autres endroits, il faut que tout s'organise et qu'autour, on ait quand même entre 3 et 4 000 places avec des cônes de visibilité extrêmement bonne. Il ne faut pas être à plus de 50 mètres du terrain, sinon ouais, c'est sûr. Difficile à suivre. Voilà, donc il faut rentrer tout ça. Donc c'est des conditions d'accueil optimum. Et déjà, l'enceinte, oui, c'est un facteur limitant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où tu peux faire ça. Ouais.
Moi, il y a une question que je me pose, les gars, vu un peu de l'intérieur, mais sans être au cœur de l'orga avec vous, c'est que j'ai l'impression que le cahier des charges mis en place par Premier Padel, j'ai l'impression que c'est avec des champions de foot, en fait. Que ce soit en termes d'accueil des partenaires, même accueil média, trouver une salle de presse pour l'accueil des joueurs, avoir des vestiaires énormes. Enfin, j'ai l'impression que c'est surdimensionné par rapport à ce que certains promoteurs et par rapport à ce sport-là. Ouais. Est-ce que certains promoteurs peuvent apporter à ce sport-là?
Est-ce que le cahier des charges a de l'avance sur le développement du padel?
J'ai l'impression que c'est trop pro. En fait, le cahier des charges, il est trop pro par rapport aux besoins et au début de croissance de ce sport-là.
Alors, c'est vrai et faux à la fois, parce qu'il est très développé sur les demandes initiales. Mais par contre, dans le cahier des charges, il manque encore beaucoup d'éléments. Quoi. Et il laisse une liberté à chaque promoteur. Mais en fait, on se rend compte que cette liberté, au fur et à mesure qu'on avance dans l'organisation, bah, il la restreint de plus en plus. Alors que si, dès le départ, tout était écrit dans le cahier des charges, il y a des choses qui seraient simplifiées.
Johan, tu fais quoi, toi? C'est quoi ton rôle vraiment dans ce tournoi? Et bah, toi, tu parles beaucoup aussi de l'accueil des partenaires. Tu t'occupes aussi pas mal, je crois, de gérer des gros partenaires comme Cupra, par exemple, qui est un sponsor Premier Padel. C'est des partenaires qui ont besoin de visibilité. Il y a énormément d'attentes à gérer autour de ça. Explique-nous un petit peu ton quotidien.
Moi, du coup, sur le projet, je suis chef de projet et je suis en gestion quotidienne sur ce tournoi avec le lien particulier avec les équipes commerciales de Premier Padel. Sur les cas qui on doit gérer l'ensemble de leurs partenaires internationaux, que ce soit Qatar Airways. On a vu récemment l'arrivée d'Audemars Piguet. Donc voilà, c'est des très bonnes nouvelles pour le tour international et nous aussi en tant que promoteurs. Mais on ne voit pas le travail de l'ombre parce qu'on parle d'Audemars Piguet, mais nous à Bordeaux, on a travaillé pendant plus de 3-4 mois avec une marque avec qui on était en discussion et ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, c'est au quotidien des discussions. Tu parlais de Cupra, ils arrivent et on est très content de les avoir avec nous. Mais pareil, donc il y a une voiture installée au bord du cours,
ouais.
Ce qui se fait très rarement
pas
dans les tournois internationaux. Donc, voilà, super intéressant, mais particulier à mettre en place. Ils ont une activation game changer, pareil, avec des jeunes sur la prospection qui est très intéressante, mais pareil, qui demande un suivi au quotidien. Donc ouais, j'ai ce lien avec les marques qui est super intéressant, mais très prenant. Et puis après, c'est tu vois, le suivi avec Premier Paddle au quotidien de la délivrance de l'ensemble des droits, du suivi de la charte commerciale, du suivi de l'ensemble des, voilà, du cahier des charges.
Mais justement, même question qu'à Hervé. Est-ce que, alors moi, j'ai, parce que, bon, moi, pour être un peu avec vous des fois dans le tournage de contenu pour les partenaires, je trouve que les demandes aussi, des fois, elles sont surdimensionnées. Tu vois, dans l'accueil, le fait d'avoir la voiture en bord de piste, des fois, c'est super compliqué. En plus, nous, l'année dernière, on avait perdu les clés. Je me rappelle, il y a eu un problème de clés sur la Cupra. Avec galéré. mais tu vois, j'ai
l'impression... Alors, oui, tu peux perdre des clés. Sinon, il y a aussi un moment où quelqu'un les avait dans la poche et à chaque fois qu'il passait pas loin de la voiture, elle s'ouvrait et elle se fermait.
Ouais.
Et on avait...
Pendant les points.
Ouais, pendant les points, ouais.
Non, mais tu vois, j'ai la sensation qu'en plus, et c'est normal, les marques investissent tellement avec le Tour qu'elles attendent à chaque tournoi une quali de dingue dans la prestation. Et c'est compliqué pour des tournois comme le nôtre, où en plus, on n'est pas tous issus de l'organisation d'événements sportifs comme Hervé, et voilà, de répondre à ces demandes positivement, tu vois, et à les satisfaire, Premier Padel. C'est ça qui est compliqué, moi, j'ai l'impression.
Ouais, absolument. On travaille avec des marques comme Heineken au quotidien, qui ont l'habitude, tu vois, de travailler avec des équipes qui sont sur des projets Ligue des Champions depuis des années.
Ouais, la Champions Cup au rugby.
Ouais, c'est ça, qu'on a l'habitude de ce cahier des charges-là. Et c'est vrai que le milieu du paddle, c'est toujours très intéressant de travailler avec des marques internationales qui sont installées dans des sports reconnus. Mais ouais, c'est un niveau qui est attendu d'une grande ampleur, quoi. Un niveau Ligue des Champions, quoi, au quotidien. Et pour des équipes tournoi de paddle international, c'est très prenant.
Ouais. Et Hervé, on est à un mois là du début du tournoi.
Déjà.
Ouais. Là, c'est plus beaucoup de temps. Les journées sont doublées, Hervé. À partir de maintenant.
Les journées s'allongent. On te confirme.
Les journées sont doublées. Ouais. Le dernier mois là, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi le plus pressé ? Alors c'est la troisième édition à Bordeaux, donc j'imagine qu'il y a aussi l'expérience, le vécu qui fait que on est plus tranquille. Que
ouais,
sur,
il y a un staff qui grossit aussi parce
que qui se densifie,
on
ouais.
prend de l'expérience, ouais.
Mais c'est quoi les enjeux là sur le dernier mois ? Qu'est-ce que tu as à gérer ?
Par où commencer ?
Alors voilà, même si c'est la même salle, cette année, on a eu envie de changer de côté la captation télé. Donc
okay.
ça entraîne pas mal de,
ça change
de
tout.
Changements.
Ouais.
On a créé un nouvel espace VIP
ouais.
qui va être très sympa au deuxième étage avec une terrasse qu'on aura vue sur les terrains. Donc ça prend beaucoup de temps aussi pour... respecter les normes de sécurité et d'installation de toutes ces infrastructures. Non, le dernier mois, et on commence à partir de lundi, là, c'est finaliser les planning staff.
Ouais, les bénévoles aussi.
Alors, le staff, les bénévoles qu'on intègre bien sûr dans le staff, mais on a des journées qui sont très longues, puisqu'on a les premiers matchs à 10h, ça finit à peu près vers 23h, donc ça veut dire que sur un même poste, il nous faut deux personnes par jour. Donc voilà, le recrutement volontaire c'est bien passé, mais voilà, là, pendant un mois là, ce qu'on va finaliser, pendant 3 semaines, hein, c'est les plannings, c'est les livraisons, c'est les reprises, c'est là on a encore une semaine de travail pour finaliser le planning de montage, parce qu'il faut pas que tout le monde travaille en même temps, il faut que chaque métier s'enchaîne, parce que on doit attendre, c'est comme dans la construction, hein, le peintre il arrive que quand le bâtiment est construit,
ouais.
hein, s'il arrive le premier jour, le peintre il sert à rien.
Oui, il faut bien phaser les choses, mais c'est, comme dit Hervé, c'est des mois de conception. En gros, la conception du tournoi, elle démarre en septembre à peu près, même si on a avec JT notamment des échanges commerciaux dès la fin juillet, même avec Hervé. Je me rappelle que chaque année, en juillet, on visite des salles pour voir si l'année d'après,
ouais.
le tournoi est fini depuis une semaine, la semaine d'après, on a rendez-vous dans d'autres arénas. Dans d'autres salles pour voir si on va maintenir là ou pas. En septembre, on démarre la conception en organique dans l'équipe à une dizaine de personnes, en gros, du projet. Après, il faut consulter, donc avoir tous les prestataires qui vont être retenus. Là, ça y est, on les a tous. Hein, donc, Ça peut être le traiteur, ça peut être la technique, le son, l'image, ça peut être
l'hébergement
ouais, également. Voilà, enfin, tous ces gens-là sont retenus. Et puis effectivement, en dernière semaine, il faut staffer. Donc, il faut trouver les presque 200 personnes qui vont venir s'occuper de l'événement pendant la semaine d'exploitation. Et puis, il faut aussi commercialement s'occuper de tous tes partenaires parce qu'on a 3 ou 4 000 places à envoyer là aujourd'hui. Donc, c'est des heures et des heures de travail et des milliers, et là je pèse mes mots, de fichiers manipulés.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment un gros...
C'est un métier.
Ouais, c'est un métier.
Non, mais c'est vrai, c'est un vrai métier. On ne peut pas organiser un tournoi qui plus est avec le cahier des charges premier panel comme ça en claquant des doigts, même si on a envie, même si on a peut-être les moyens. C'est un vrai boulot d'organisation. Il reste des places, hein. Là j'ai Hervé, hein. www.betclic-bordeauxpremierpanel.com.
Exactement.
Il nous reste quoi là à vendre?
Il nous reste 500 places à vendre sur demi-finale, finale.
Ah, mais ça, faut y aller, les amis, là.
Il faut se dépêcher, là.
Sur les 4 catégories 3, je crois.
C'est deux fans.
C'est deux fans, ouais.
Allez-y, donc, allez-y.
Là, il reste plus beaucoup de places, donc il faut se dépêcher.
Pour ouais, le dernier carré, en plus, c'est un truc de fou.
Et non, on invite surtout les gens à venir aussi participer aux night sessions du mercredi, jeudi, vendredi, qui sont une ambiance différente des demi-finales, finales. Voilà, avec des moments très festifs sur les night sessions, des quarts de finale le vendredi.
Très sympa le vendredi. Moi, j'arrête pas de le dire dans tous les podcasts.
Ouais,
c'est
les matchs phares qui sont programmés en night session. Donc, les plus belles affiches seront également en night session.
Moi, c'est ma journée préférée dans tous les tournois de padel. Si vous pouvez vous faire la journée.
T'es un homme du soir, toi. C'est pour ça.
Ouais, mais même pas sur les night sessions. Non, mais je trouve que tu vois les meilleurs, en fait, sur les quarts de finale. T'es jamais déçu. Il y a peut-être une ou deux surprises.
Exactement.
T'es sûr de voir des super matchs. JT, on est à quelques semaines de. Les inscriptions sont ouvertes pour Bordeaux ou pas? Ça y est, ça.
Pas encore, mon Nico, incessamment sous peu.
Est-ce qu'on a des petites tendances sur le plateau? Toi, avec
pas,
tes infos, on peut rien dire.
Du scoop,
je pense que cette année, ça sera encore une année réussie. On est en crescendo, si tu veux. La première année, ça a été très difficile. Il nous manquait les 8 meilleurs paires. L'année dernière, on a eu une finale extraordinaire. Je me rappelle de Coelho Tapia, Shingo Togalan, quand ils sont rentrés sur le central, on s'est pris dans les bras avec Jean-Luc. C'était un grand moment de pouvoir les voir à Bordeaux. Et cette année, on les aura tous. On n'a jamais eu les Bron.
Alors moi, je dis, je peux rien dire, et il me dit, on les aura tous.
Je te le dis.
Bon, nickel.
Voilà. Les Bron n'est jamais venu à Bordeaux.
Ouais, blessé l'an dernier.
Blessé l'an dernier. Voilà, c'est la course à 3. Là. Je pense qu'on va tous les avoir. En tout cas, il nous tarde qu'ils soient inscrits.
Faut pas trop te chauffer pour que tu balances des infos quand même. Hein.
Non. les derniers résultats, la dernière semaine nous donnent raison aussi.
Bien sûr.
Je veux dire, Tapia, Coelho, Shingoto, Galan, c'est extrêmement important pour eux, pour leurs sponsors. Et leur objectif numéro un, c'est d'être numéro un mondiaux. Donc voilà, Coelho, Tapia, ils ont un peu de retard. Donc je pense que personne ne fera l'impasse à Bordeaux cette année.
Ça, c'est magnifique. Mmh. Tiens, les gars, je voulais qu'on termine le podcast par une petite info. Je pense que Johan, ça va te plaire. Hervé, peut-être moins. Bon, je sais pas.
J'ai peur de
Est-ce que vous savez que le padel débarque dans le gaming? Ça
il
y est.
Paraît, oui.
Ça y est, Red Bull, qui est sponsor du tour Premier Padel, vient de lancer le tout premier jeu vidéo officiel sous licence Premier Padel. Ça s'appelle Court Legends. Avec Jean-Luc, on l'a téléchargé tout à l'heure avant notre repas. C'était exceptionnel. Il est dispo sur les plateformes. Là. C'est sur mobile. Alors, ce qu'on retrouve dans le jeu, les coups emblématiques du padel. On peut balancer de la Vibora, de la Bandera, des Smash, du Lob. On peut défendre les doubles vitres, JT. Ben oui.
T'as réussi à le faire en jeu vidéo, Nicolas ?
Non, mais on n'est pas allé jusque-là, j'ai pas commencé. Okay. Non, par contre, t'as un mode carrière inspiré du circuit Premier Padel.
D'accord, mais tu peux jouer sur le club. Tu peux jouer le tournoi du Betclic Bordeaux Premier Padel.
Alors, je vais pousser un peu le truc, mais en tout cas, tu peux créer ton club et recruter des joueurs. Donc, ça après, voilà.
Ok.
Johan, tu vas jouer, toi ? T'as téléchargé ou pas ? Il est sorti hier ? Pas encore ?
J'ai pas encore téléchargé.
T'es un gros gamer, toi ?
Un peu occupé en
gros ensemble. Gamer ?
Ouais, quand j'ai un peu de temps, je
m'amuse. Bon, va falloir s'y mettre. Hein. En tout cas, voilà. Non, mais je me dis quand même que quand un sport commence à avoir son jeu vidéo officiel, ça prouve quand même que t'es sur une croissance un peu dingue. Déjà, ça veut dire qu'il y a une demande. En plus, quand c'est Red Bull qui développe assez fou.
Mais quand t'auras le premier panel 2026 sur PS5 et eSport, tu vois, là, je dirais, si mais...
Non, mais tu sais qu'il y a
Je crois qu'il y a déjà eu quelque chose, hein, Nico.
Il y a un espagnol, un créateur de jeux vidéo espagnol, j'ai plus le nom, là, je l'ai lu tout à l'heure. Qui essaye de développer aussi quelque chose, ça veut dire qu'il y a plusieurs organismes comme l'e-sport et tout ça qui se mettent sur développement du padel. Comme le tennis a eu son Top Spin, la NBA a son NBA 2K, FIFA pour le foot. Mais je vous sens pas hypé par cette nouvelle.
Non, mais enfin, moi, il y a des gens là.
Je vous sens pas du tout hypé. Non, je me suis dit, je vais terminer le podcast en beauté.
L'application, prenez pas de.
Il y a des gens autour de la table que j'ai encore pas vu sur un terrain de padel. Ce sera peut-être l'occasion de voir jouer au padel.
Ah, si. Ah oui, c'est vrai.
Eh oui.
C'est vrai. C'est pas faux. Bon, les amis, merci beaucoup. On va lancer.
Merci, Nicolas.
Attendez, le petit bed de fin de podcast, c'est toujours très important. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vous rappelle, je vous redis ce que j'ai dit en début de podcast. Les DM, important, si ça vous a plu. Si vous voulez encore qu'on se replonge dans les coulisses d'organisation d'un tournoi. Si vous voulez qu'on parle padel et business. Voilà, qu'on sorte un petit peu du cadre du sportif. Ça peut être intéressant pour vous. Donc, vous nous le dites. Et puis, on se retrouve dans 15 jours, les amis.
Bon, il a gagné, Kwame, ou pas?
Ah, je sais pas, oui, on enregistre ce podcast pendant le deuxième tour de Moïse Kouamé à Roland-Garros. Il est 5-0 dans le Super Tie. On va te couper du Super Tie, c'est terrible. Allez, ciao les amis.
Ciao à
bye
tous.
Bye.
Ciao, ciao.
RMC, Viva Padel.